attend pas, c'est tout de suite ce soir dans le rendez-vous en direct sur France Culture. Il sera question de la bohème, du meilleur groupe de rock du monde, de Syd Barrett, de Kateb Yassine et même de ma gueule. Avec Camélia Jordana qui signe son deuxième album Dans la peau, ou comment travailler une chanson française moderne placée sous le signe de Brigitte Fontaine, Benoît Lagane.
Pour nous donner une idée de la couleur musicale de ce deuxième album, Camélia Jordana s'impose élégamment dans la peau d'une auteure-compositrice. Elle nous interprétera deux titres en direct.
Ses côtés, il y aura Marc Lenné qui met en scène Splinorama, l'histoire du meilleur groupe du monde, un théâtre musical placé, lui, sous le signe de Bertrand Belin. Lucille Como.
Retour sur le parcours d'un metteur en scène qui fait du théâtre musical un des derniers bastions contemporains du romantisme.
Mais d'abord, c'est l'actualité culturelle, le nouveau journal de la culture de Zoé Sfez.
Elle sait, il va-t-elle mourir?
Écoutez, à partir du moment où une entreprise n'a plus de modèle économique, la question de sa survie est posée. Pour bien connaître les collaborateurs de LCI, je sais que jusqu'au 31 décembre 2014, ils honoreront le contrat que nous avons vis-à-vis du public et vis-à-vis des distributeurs. Au 1er janvier, il n'y a plus de recettes pour LCI. Donc je vais essayer avec les équipes de trouver des solutions qui permettent d'éviter au maximum ce qu'on appelle la casse sociale, mais ça va être évidemment très difficile.
Bonsoir Zoé Sfez.
Bonsoir Laurent, bonsoir.
C'était
à tous.
Votre son du jour, un peu frelaté.
Un peu frelaté, il date de juillet dernier. Ce que vous entendiez, c'était Nonce Paolini, PDG de TF1 qui était invité de son propre 20h. Il venait d'apprendre que le CSA refusait de faire de LCI une chaîne gratuite. Et vous l'entendez, le ton était grave. 3 mois plus tard, le couperet est tombé. TF1 annonce qu'il va d'abord faire appel de cette décision du CSA, mais qu'en cas d'échec, LCI cessera d'être une chaîne d'infos pour devenir une plateforme de contenu payant, programmes inédits, flash d'infos, etc., accessible à la demande sur tous les supports. Et surtout, elle ne gardera que 54 salariés sur les 247 actuels.
Le dossier du jour tout de suite, le secrétaire d'État américain John Kerry a dénoncé les destructions intentionnelles répétées du patrimoine irakien et syrien par l'État islamique. Depuis sa progression fulgurante en Mésopotamie, le groupe armé multiplie en effet les destructions.
Oui, déjà, la semaine dernière, la directrice générale de l'UNESCO, Irina Bokova, avait lancé un cri d'alarme. Il faut rappeler qu'en juillet, au cœur de l'été, quand l'État islamique a pris la ville chrétienne de Mossoul en Irak, elle a détruit plusieurs bâtiments, dont le mausolée du prophète Jonas. Et depuis, ils sont semblerait bien que les destructions continuent, même si c'est très difficile d'avoir des informations valides, comme l'explique Nada Al-Hassan, chef de l'unité des pays arabes au Conseil du patrimoine mondial de l'UNESCO.
On sait beaucoup de choses et on sait très peu de choses, parce que ce qu'on sait est très peu vérifiable. On a beaucoup de rumeurs. On a entendu ces derniers jours que probablement la citadelle de Tikrit a été touchée. Et puis on a eu un démenti, est-ce le gouvernement qui a voulu riposter à une présence armée ou est-ce les groupes armés qui ont voulu intentionnellement bombarder la citadelle? On ne sait pas. Mais ce qu'on peut dire, c'est que la partie la plus menacée, c'est le gouvernorat de Ninive, autour de la ville de Mossoul. C'est une région extrêmement riche en sites pré-islamiques. Il y a une concentration de sites archéologiques et de patrimoine urbain, muséales, etc., très importantes, qui, comme on le sait maintenant, a été très violemment perturbée.
Alors, on le sait, Zoé Sfez, en cas de conflit, le patrimoine bâti est toujours menacé par les combats, mais ici, et c'est plus inquiétant, ces destructions surviennent après les combats.
Oui, clairement, c'est des destructions intentionnelles. Elles visent souvent des bâtiments qui sont liés à des minorités chrétiennes, yézidis, et puis de toute façon, toutes celles qui incarnent une vision de l'islam différente de celle défendue par l'État islamique. Écoutez l'historienne spécialiste de la Mésopotamie, Véronique Grandpierre.
Ce sont souvent des destructions, non pas forcément pour la beauté ou pour la rareté architecturale des éléments patrimoniaux qui ont été détruits, mais plutôt pour leur signification symbolique. Si on prend la grande ville de Mossoul, ce sont des mosquées qui ont été la cible, et pas n'importe lesquelles, puisque vous avez la mosquée des prophètes Gergis, c'est-à-dire Georges, la mosquée de Seth, l'ancêtre de Noé, et puis la mosquée d'Younes, de Jonas. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont les mosquées qui s'étaient élevées sur les tombes présumées de 3 personnages communs aux 3 monothéismes. Cette destruction du patrimoine, c'est une arme psychologique. Le message est clair. Tous ceux qui ne pensent pas comme ceux qui arrivent doivent partir. Et en l'occurrence, le message, je pense, a été entendu.
Face à une telle situation, de quels moyens dispose-t-on ?
En cas de guerre, bien souvent, le plus gros problème en général jusqu'ici, c'était le vol et le trafic d'œuvres d'art. On profite du chaos pour faire sortir des œuvres. Là, l'UNESCO, a priori, est plutôt rodée. Il existe une convention qui date de 1970, qui permet de contrôler les œuvres susceptibles d'être volées pour les repérer aux frontières. Mais alors là, dans ce cas-là, presque inédit de destruction intentionnelle massive de patrimoine bâti, la question est bien plus délicate et les solutions sont en train maintenant d'être trouvées.
Pour le patrimoine bâti, c'est beaucoup plus difficile. Lors d'une réunion technique avec des experts irakiens et internationaux, nous avons exploré avec eux les manières de contrôler la destruction actuelle, surtout la destruction intentionnelle. Et nous sommes arrivés avec eux à la conclusion que c'est vraiment en travaillant avec les chefs communautaires, les chefs de tribus, les notables dans les lieux menacés qu'on peut contrer ça. Et d'ailleurs, la destruction de la mosquée de Younas a beaucoup choqué les Irakiens. Et tout de suite après, il y a eu une tentative des groupes armés de bombarder un mausolée à côté du minaret de Al-Hadba. C'est un minaret du Moyen-Âge vraiment très très important que l'UNESCO a restauré. Il y a eu une chaîne humaine autour du minaret afin qu'on empêche sa destruction. Vous savez, ces groupes armés, aussi violents qu'ils soient, quand il y a une opposition populaire, ça affecte leurs décisions.
Voilà, alors la directrice de l'UNESCO a profité de la présence de John Kerry hier à un sommet pour lancer un appel à la communauté internationale en rappelant que si ces destructions continuent, elles vont profondément changer l'identité de l'Irak et qu'il faut porter la même attention aux populations qu'à la culture dans ce conflit. John Kerry dit l'avoir entendu, ce qui représente un espoir puisque, je le rappelle, depuis 2011, les États-Unis ont suspendu leur contribution à l'UNESCO qui a pourtant bien besoin de fonds en ces temps de crise.
Tout de suite, on passe au bref.
Et l'on ouvre avec Fleur Pellerin, nouvelle ministre de la Culture, qui, dans un entretien au Monde, indique qu'elle n'exclut pas de légiférer sur le régime des intermittents si la concertation qu'elle a lancée échoue. Je rappelle que jusqu'ici, c'est le dialogue social dominé, il faut le dire, par le MEDEF qui régissait ce régime, et notamment la question de l'assurance chômage.
La Chine est en tête du marché mondial des œuvres d'art.
Avec 811 millions de dollars contre 700 millions pour son rival américain, le dragon chinois a réalisé 40% des recettes mondiale et son résultat est en progression de près de 50% par rapport à l'année dernière, selon ArtPrice. Les deux pays étaient encore au coude à coude à ce moment-là. Il se vend autant d'œuvres d'art en Chine qu'aux États-Unis, Royaume-Uni et France réunies.
Françoise-Marie Santucci remplace Valérie Thoragnan à la direction du magazine Elle.
Et oui, la directrice de la rédaction de Elle, Valérie Thoragnan, qui était en poste depuis 12 ans, a été remplacée par Françoise-Marie Santucci, qui est elle directrice en chef de Next, le magazine culturel de Libération. Selon le communiqué du groupe Lagardère, qui est propriétaire de Elle, la nouvelle directrice devra faire du magazine un magazine encore plus proche de ses lectrices, vivant, profond et joyeux.
Ça vous fait rire, Camilla Jordana ?
Non, pas du tout.
Ah si, ça vous fait rire, je vous ai vu rire.
Non, d'accord. Je trouvais la formule originale.
Mais surtout qu'en plus, elle n'était même pas finie.
Oui, c'est la formule. Alors, la formule, c'est en avance, audacieux, chaleureux et je dirais même bienveillant.
Voilà.
Ah. Beau.
C'est bon, parfait.
C'est mouvant.
La dernière brève,
c'est l'histoire d'une rencontre, alors moi je trouve assez improbable, entre peinture et musique, mais cela n'engage que moi. Alors vous n'êtes pas sans savoir tout ce que l'année prochaine, 2015, sera l'année du 125e anniversaire de la mort de Vincent Van Gogh. Un siècle et un quart, ça se fête, on va pas se priver d'un grand anniversaire, surtout pas aux Pays-Bas.
Ça, surtout les musées.
Voilà, on adore ça. Alors évidemment, des dizaines d'expositions et autres rétrospectives sont prévues, mais aussi cerise sur le gâteau, les amis, pour sensibiliser un public plus jeune, plus branché à la vie de l'impressionniste, les Hollandais nous concoctent une petite comédie musicale sur le peintre à l'oreille coupée. La première aura lieu à l'automne 2015, sobrement intitulée Vincent. Cette œuvre ambitieuse, selon les organisateurs, retracera la vie de Van Gogh.
Ambitieuse, vivante, profonde, voilà. Joyeuse, encore plus en avant, chaleureuse et bienveillante.
Exactement, donc il y a sa vie, l'oreille coupée, sa mort controversée, mais il y a aussi une mise en vie de ses tableaux, rendus vivants par le chant et par la chorégraphie. J'imagine ces tournesols qui dansent. Voilà, ça va être très joli. Et on y aura droit en France, figurez-vous, puisque Vincent Van Gogh étant mort à Auvers-sur-Oise dans le Midi, la France aura le droit, elle aussi, à une charmante petite tournée.
Est-ce qu'il y a des réactions parmi nos invités, Camilla Jordana et Marc Lenné ? Camilla Jordana ?
Oh, moi, je trouve ça très gentil qu'ils aient pensé à nous.
Je peux vous garantir qu'en effet, c'est une preuve de gentillesse. On ne peut pas dire autrement. Marc Lenné, non, aucun commentaire, même pas sur les intermittents.
Ah si, sur les intermittents.
Ah.
Si.
Ouais.
Si, il y a des choses à dire, il y a des choses à faire.
Ça sera encore plus facile si vous vous rapprochez
du micro. Le 1er octobre sera, vous savez, c'est la date qui va comme ça enclencher le processus. Et il y a un appel aux actions et à la grève ce 1er octobre qui va peut-être être suivi. Dans quelle mesure, je ne sais pas encore. En tout cas, c'est un moment important. Et sur la comédie musicale, moi, je pense que Vincent Van Gogh, je pense que le pari est risqué. Mais au fond, il y a sans doute quelque chose à faire d'inattendu.
Très belle voix, hein, Marc Lenné.
Oui.
Ouais, très belle voix. On commence tout de suite.
19h20, rendez-vous. Le rendez-vous, c'est sur France Culture.
Plateau Épiderme avec vous, Camélia Jordana, auteure, compositrice, interprète. Vous signez votre deuxième album chez Jive Epic, titre Dans la peau, un album que vous avez en partie écrit et composé avec Babix et Mathieu Bogart. On vous a vu récemment au cinéma dans le film Bird People de Pascal Ferrand. On va vous retrouver bientôt au théâtre. Tout ça, on va y revenir, mais pour l'instant, on vous écoute en direct du studio 108. Benoît.
Oui, et pour ce premier titre, vous avez choisi Ma gueule, un extrait donc de ce nouvel album. Vous êtes accompagné par Donia Beriri au synthé, Steve Arguel à la batterie. C'est à vous en direct sur France Culture.
Merci. C'était Camilia Jordana, Ma Gueule, en direct sur France Culture depuis le studio 108. On retrouvera Camilia Jordana en tournée un peu partout en France à partir du 5 décembre. Ça, ce sera à Toulouse, puis il y aura Lille le 11, Dijon le 21, ou encore Paris le 15 et Lyon le 16. Alors, toutes les infos sont disponibles sur notre site internet. Ma Gueule, donc un extrait du dernier album de Camilia Jordana, paru chez Sony Music, Jive Epic.
Un mot peut-être d'abord sur cette chanson que vous avez écrite, je crois, après avoir vu un documentaire sur le poète Kateb Yassine. En quoi ça a pu fonctionner comme un déclencheur?
Eh bien, parce que c'est plus la scène d'ouverture qui m'a... Enfin, évidemment, le documentaire était magnifique et j'étais vraiment bouleversée après ça. Et l'introduction, c'est lui, en tout Kateb Yassine qu'il est. Ouais. Il est avec la dame qu'il interview pour le documentaire et ils vont dans le 13e arrondissement de Paris. Et là, il y a des travailleurs algériens. C'est juste après la guerre d'Algérie. Et là, il y a des travailleurs algériens qui sont en train de construire Paris pavé après pavé. Et il les montre comme ça de la main et il dit à la dame, pardon. Il dit, ben voilà, ici, c'était des heures d'ennui, des pesants de tristesse. On pensait au pays, sous-entendu qu'il a débarqué ici, il a commencé par ça. Et il y a eu ça, et puis suite à ça, en fait, la plupart du temps, je raconte ça dans l'autre sens, mais la vérité est que suite à ce documentaire, peut-être deux jours après, dans le métro, j'ai aussi assisté à une scène raciste, mais terrible, mais vraiment effroyable, comme j'en avais jamais vu, aussi violente. Et du coup, je suis rentrée chez moi. C'était une journée où ça allait pas fort, on va dire. Et du coup, c'est la seule chanson pour laquelle ça m'est arrivé. En fait, j'ai fait de l'écriture automatique. J'étais tellement mal. Je suis arrivée à mon piano. Puis ça a fait ma gueule.
Kateb Yassine, est-ce que c'est un poète dont vous a parlé dans votre enfance?
Pas du tout. Mais du coup, l'ironie dans tout ça, c'est que je n'ai pas encore pris le temps de lire ses œuvres. Aucune. Alors, il y en a beaucoup qui sont citées dans le documentaire et ça avait l'air fou. De beauté, mais pas du tout. C'est un auteur dont j'avais jamais entendu parler avant que ma sœur m'envoie ce lien.
Benoît Lagane.
Alors cet album, vous dédiez dans cet album une chanson à Brigitte Fontaine. En exergue, vous placez une citation, toujours de la même Brigitte Fontaine. « J'ai 26 ans et seulement 4 d'utiles ». Pourquoi vous placez-vous là sous le signe de Brigitte Fontaine, Camilla Jordana?
Je voulais lui rendre hommage déjà parce que c'est, je trouve, l'auteur de chansons contemporaine la plus douée qu'on ait aujourd'hui en France. Aussi parce que ses chansons, ses textes m'ont énormément aidée pour écrire les miennes. L'un de mes super copains musiciens, Grégory D'Argent, avec qui je jouais, qui est sur l'album et avec qui on était en tournée, qui était sur le premier et tout ça, pour mes 20 ans, m'avait offert un livre de Brigitte Fontaine, justement, qui s'appelle « Mot pour mot », dans lequel sont retranscrits tous ses textes et certains inédits et tout ça. Et dès que je bloquais, en période d'écriture, j'ouvrais ça et tout de suite, ça débouchait un petit peu. Ça débloquait beaucoup de choses. Et aussi parce que je l'ai énormément écoutée au cours de ces 5 dernières années. À partir du moment où j'ai découvert sa musique, en fait.
Vous avez écouté aussi ce qu'elle écrivait dans les années 60, ses chansons des années 60?
J'ai plus écouté, en fait, les premiers albums. Ah. Je connais assez peu, finalement, les dernières choses qu'elle ait créées. Mais c'est plus... J'ai énormément écouté les premiers, en fait.
Dans un entretien, vous évoquiez le fait que vous teniez à faire de la chanson française moderne. Oui. Ça veut dire quoi, ce moderne? C'est-à-dire, ça passe par le son que vous vouliez pour cet album?
Particulièrement.
Ça passe par...
À mon sens, et je ne parle que pour moi, hein, je ne suis pas en train de prétendre que j'ai la science infuse et que je sais tout et que personne ne sait. Simplement, dans ma tête, j'ai vraiment le sentiment que quand on dit chanson française, soit les gens ont tendance à penser à Brel, Piaf, Barbara et Ferré, et tous les grands artistes qui ont créé cette chanson traditionnelle française, donc le patrimoine, avec un grand P, ou bien qu'on pense à du divertissement, donc je ne vais pas citer les personnes concernées, du divertissement chanté en français. Et en fait, il y a un monde, évidemment, entre ces deux catégories, on va dire. Et en tout cas, pour moi, la chanson française, c'est un style de musique à part entière qui consiste en, je prends le texte, et si je le lis sans la musique, ça sonne un minimum et c'est un brin poétique. Si ça va par là, a priori, il y a pas mal de chances pour que ce soit de la chanson française. Pour moi, c'est simplement une priorité évidente littéraire. Et du coup, après, oui, l'idée était de réussir à en faire quelque chose de moderne, justement, un peu de dépoussiérer tout ça, avec les arrangements et d'en faire quelque chose d'assez contemporain et actuel. Parce que du coup, c'est vrai qu'il y a aussi de la chanson française, il y a une famille de chansons françaises qui était la nouvelle chanson française il y a 15 ans, qui sont des artistes qui font en effet qui ont une certaine exigence littéraire, mais qui auront plutôt tendance à chanter en piano-voix ou en guitare-voix, justement comme ça se faisait à la belle époque. Et d'ailleurs, ils ont tendance à faire ça très bien, hein, c'est, je dis ça sans jugement. Mais moi, j'avais un vrai désir de réussir à faire ça avec des arrangements très recherché et très travaillé, comme en laboratoire, comme Babix d'ailleurs, qui a réalisé l'album, a l'habitude de faire.
Marc-Léné, vous comprenez cette distinction, justement, vous qui connaissez aussi la chanson française, puisqu'on parlera tout à l'heure de votre lien notamment avec Bertrand Belin.
Entre la variété et la chanson à texte, quoi, ouais. C'est ça. Oui, mais je crois qu'effectivement, elle l'a très bien dit, il y a un monde de singularité entre ces deux grandes catégories qui est magnifique, et on a tendance effectivement à réduire un peu tout ça.
Benoît. Camélia Jordana, je disais tout à l'heure, votre tournée va débuter en décembre, mais auparavant, vous allez monter sur scène au mois de novembre au théâtre, au Bouffe du Nord. Et à ce propos, vous avez déclaré que vos concerts seraient pensés comme de véritables shows, avec costumes, mise en scène, quelque chose de très écrit.
Tranquille.
Une dimension théâtrale.
L'idée étant que, en fait, j'ai eu une conversation avec Babix un jour qui m'a fait beaucoup réfléchir. Et il me disait, en effet, quand on va voir, par exemple, un spectacle de danse, à chaque entrée et sortie d'un danseur, il n'y a pas un tonnerre d'applaudissements. C'est pensé comme un spectacle d'un bout à l'autre. Il y a un fil rouge et c'est un objet complet, en fait. Et c'est vrai que ce format-là m'intéressait beaucoup. Et du coup, j'ai demandé à Guillaume Vincent, qui est mon metteur en scène préféré dans la vie, qui est un immense metteur en scène, qui a fait ce que moi, pour l'instant, j'ai vu de plus beau au théâtre, vraiment. J'ai un peu quelque chose à voir en attendant. Mais non, c'est parce que je ne l'ai pas
vu.
Vous m'avez pas laissé le temps de préciser. Bertrand Belin est un copain et je crève d'envie. Et j'ai vraiment très hâte d'aller voir ce spectacle parce que justement, on s'est vu à la fin de la création. Il m'expliquait ô combien il était heureux et épanoui dans ce projet avec cette équipe-là. Et donc, j'ai vraiment très hâte de voir ça sur scène.
Mais Guillaume,
en effet, est très doué.
Et donc,
l'idée, c'est en effet d'avoir un spectacle avec, je sais pas, une vraie histoire, un fil rouge, une histoire qu'on raconte aux gens avec des décors évolutifs, des costumes, des textes écrits et pas d'applaudissements entre les morceaux.
Pas d'applaudissements entre les morceaux.
Non.
Vous refuserez ce plaisir.
Pour moi, le plaisir serait justement qu'il n'y en ait pas et que les gens assistent à un spectacle et que du premier son à la première lumière au dernier, que ce soit quelque chose d'entier, en fait, et que ce ne soit pas interrompu par des applauses ou autre chose.
Moi, j'imagine que vous pouvez comprendre ce dispositif, ouais, Marc-Léné, justement par rapport à un concert. Ouais.
Absolument, mais là, avec le dernier spectacle, le problème est réglé, effectivement. Le climat qu'on a choisi permet d'éviter ce risque des applaudissements. Sur le précédent spectacle que j'avais fait avec les Moriarty, on hésitait souvent entre la forme concert et la forme théâtrale, ce qui était assez jubilatoire au plateau, mine de rien, en fait, d'avoir à osciller entre les deux formes. C'est plutôt intéressant, même pour les acteurs de théâtre qui n'ont absolument pas. C'est plutôt le signe d'une très grande grossièreté, les applaudissements au milieu d'une scène de théâtre. C'est qu'on s'est raté, quoi.
Alors, ce passage sur la scène des Bouffes du Nord, hein, dans quelques temps, ça sera en novembre, je crois, vous allez monter sur cette scène, vous allez jouer Mimi, qui est une relecture de l'opéra de Puccini, d'ailleurs dans une mise en scène de Guillaume Vincent.
Toujours.
Et je crois que le livret, c'est...
Frédéric Verrière.
Ah, je crois que c'était Bastien Gallet. Non, donc ça a
Frédéric Verrière.
Frédéric Verrière.
Ah non, non, ça a toujours été Frédéric Verrière.
Oui, c'est vrai, c'est moi qui ai absolument mélangé.
C'est la musique, en fait,
exactement.
Sébastien.
Exactement.
Et dans l'album, je sais que vous remerciez Olivier Poubelle, qui est le responsable des lieux des Bouffes du Nord, et vous dites, pour son écoute et ses bons conseils, de quelle nature ont pu être les conseils de cet homme de théâtre pour vous, Camélia Jordana?
Olivier Poubelle, c'est un monsieur que j'estime énormément et dont la présence m'apaise beaucoup. Parce que, justement, dans la vie, j'ai la chance d'avoir, j'ai tendance à l'entendre dans la bouche des autres, plusieurs casquettes. En tout cas, j'adore jouer dans des films, jouer au théâtre, faire de la musique, écrire des chansons, voir d'autres choses. Et c'est vrai qu'Olivier, on s'est rencontrés il n'y a pas si longtemps, attention, hein. Quand j'ai commencé à faire de la musique, donc il y a 5 ans et demi, quelque chose comme ça. Et en fait, c'est quelqu'un qui a toujours été présent, en fait, à chaque nouvelle étape de ma vie. On se voit, on en parle, et il a toujours un regard très intéressant qui sera toujours différent de celui d'autres, en fait, et qui vient toujours mettre le doigt à des endroits auxquels j'aurais jamais pensé.
Vous pensez à quelque chose de précis, par exemple ?
Bah, tout, en fait. À chaque fois, quand j'ai commencé à passer des castings pour jouer dans des films, à passer des castings pour l'opéra, à faire des pièces de théâtre, toujours en venant me voir en plus et en ayant un regard très critique, mais toujours très bienveillant en plus. Et voilà, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, qui a une histoire magnifique en plus dans ce métier-là, qui a quand même commencé, je ne sais pas si je dois le dire ou pas, bon, j'ai commencé ma phrase, qui a commencé en tant que marionnettiste, ce qui est quand même d'une poésie dingue, je trouve. Et voilà, c'est quelqu'un de très influent aujourd'hui et qui est voilà, très important dans ce milieu et en tout cas très important pour moi aussi.
Vous avez passé un casting pour le film de Pascal Ferrand, Bird
oui,
People.
Et ah pas ouais. qu'un. Bien sûr. Si, j'ai passé un casting avec Sarah Tepper et Richard Rousseau, que j'embrasse au passage.
Qu'est-ce qu'on vous a fait faire pendant ce casting ? C'était quoi l'objet de ce casting ?
Je crois que c'était plus ou moins une improvisation sur une scène qui se passait dans le tramway ou dans le métro ou dans le RER. Et voilà. Et en fait, au début, Sarah Tepper ne voulait pas me voir, justement, parce qu'elle avait en tête une image de moi qui datait d'il y a 4 ans. Et puis, je déjeunais en jouant avec mon agent et elle m'a vu arriver en col roulé, les cheveux tirés, pas maquillée. Elle m'a dit « Attends, je lui envoie une photo ». Et donc, elle a accepté de me voir. Puis Pascal, on s'est rencontrés avec Pascal Ferrand et on s'est revus. Et en toute modestie, bon, je crois qu'elle voulait quelqu'un d'assez, je ne sais pas comment le définir.
Si, elle
avait
savez.
Non, je ne sais pas. Elle avait décidé que j'étais trop belle pour ce rôle. Donc, je suis très touchée. Je dis ça sans prétendre quoi que ce soit, hein, tout va bien. Mais en tout cas, elle m'expliquait que j'étais trop belle pour le rôle et que donc non. Et le jour de mon départ en vacances, elle m'a dit « Bon, écoute, j'ai tout fait pour que ce soit pas toi, mais finalement, t'as quand même ce rôle. » Voilà, donc je sautais au plafond.
Benoît.
Alors, on demande à tous nos invités chaque jour de choisir un son. Et en ce qui vous concerne, puisqu'on évoquait le théâtre à l'instant, vous avez choisi ça.
Quel personnage auriez-vous aimé être ?
Et vous allez rire. J'aurais voulu être roi.
Pourquoi ?
Parce que pour moi, le roi est celui qui se donne tout entier et qui se donne au point qu'il se fond dans tout un peuple, il se désintègre totalement. Et quand il existe, il n'est plus lui-même, il représente le peuple. Et quand il est lui-même, il n'est plus rien du tout puisqu'il s'est fondu dans tout un peuple.
Ça fait partie de votre crainte de la solitude ?
Et mon désir de me donner tout entier.
Ce qui est une chose de l'homme de théâtre.
Oui, qui pour moi, je crois, est la mission même de tout être humain, c'est de se donner.
Identification du son, Camilla Jordana.
Oui, il s'agit de Jean-Louis Barrault.
Voilà, c'était en 1959, interviewé par Louis Powells.
Pour quelle raison avoir choisi la voix de Jean-Louis Barrault ?
Parce que, pour mille raisons, je ne sais pas trop par où commencer, j'ai découvert ce monsieur... dans Les Enfants du Paradis, bien évidemment. C'est Babix qui m'a fait découvrir ça, qui était l'un des films avec lesquels il a grandi et qui regardait 10 fois par jour avec son meilleur copain depuis qu'il était tout petit. Et en fait, j'ai pas pu regarder la suite du film. J'étais parfaitement bouleversée par cette scène d'introduction dans laquelle ils sont sur les grands boulevards qui, à l'époque, étaient des lieux de spectacle, en fait, mais dans la rue. Il y avait des scènes montées dans la rue. Et Arletty, donc, jouant Garance, est accusée de vol. Et Jean-Louis Barrault, qui est le fils du type qui tient une petite scénette comme ça, qui lui est fait de la pantomime et mime, a bien vu que c'était pas elle qui était la responsable de ce vol, et il décide, en fait il commence à y avoir une agitation comme ça dans la foule, et il décide d'expliquer à l'agent à quel point, évidemment, non, cette pauvre sublime femme n'est pas responsable de ce crime, et il commence à monter sur scène et à expliquer ça avec une grâce infinie en mime. Évidemment, il finit avec un geste magnifique, et suite à ça, je suis un peu restée comme ça pendant tout le film, vraiment presque tétanisée par la beauté de ce que je venais de voir. Et suite à ça, j'ai vraiment été prise d'une passion pour cet homme. Et voilà, je suis vraiment très amoureuse de lui.
Ça évoque quelque chose aussi pour vous, l'homme de théâtre que vous êtes, Marc Lenné, Jean-Louis Barrault, ou c'est vraiment une autre histoire ?
Oh non, bien sûr que ça évoque plein de choses, mais là, ce qu'il dit, c'est très beau.
Ah, c'est très beau, sur être un roi,
c'est être un roi, et sur tout d'un coup la dissolution, la virtualisation, et comment tout d'un coup, je trouve ça une très belle chose.
Plateau Mélancolie avec vous, Marc Lenné, metteur en scène. Vous travaillez un théâtre lié intimement à la musique et surtout à la chanson. En tout cas, c'est le cas de Splinorama qu'on peut voir actuellement au Théâtre de la Bastille à Paris. Un spectacle que vous avez écrit avec le chanteur Bertrand Belin. C'est l'histoire en deux mots hein, de Lucas, Isabelle et Yannick. Ils ont entre 30 et 40 ans. Ils se retrouvent lors de l'enterrement de Laurent, merveilleux prénom, avec qui ils formaient dans leur jeunesse le meilleur groupe de rock du monde. La pièce dure une nuit, le temps d'un bilan, une nuit musicale hantée par le fantôme de leur ami et par le spectre d'un album parfait qui n'a jamais existé. Montage très rapide, hein, signé par notre réalisateur Thomas Beau.
Mathias et Julien, mes fils. Ils s'appellent Mathias et Julien. Il n'a jamais réussi à s'en souvenir. C'est pour ça qu'Yannick s'est engueulé avec lui. Parce qu'il n'arrivait jamais à se souvenir des prénoms de ses fils. Je sais où il les a cachés.
Quoi ?
Les maquettes de l'album. Je sais où elles sont.
Devant ton visage, mortel pour moi, mortel pour moi.
C'est beau.
T'as une voiture ?
Non.
Nous, on aurait vraiment besoin d'un break. Ça fait un an et demi que j'économise pour pouvoir nous payer un break. T'as pas ce genre de soucis, toi, hein ? Bah, break neuf, c'est ce que ça va coûter.
Je comprends pas.
Mais qu'est-ce que t'imagines, qu'on peut baiser ma femme gratuitement ?
Yannick !
Non mais quoi, ça va, un break neuf et on équipe.
Alors dans cet extrait, on entend la voix du chanteur Bertrand Belin, avec qui vous avez collaboré. Vous, les dialogues, lui, les chansons. Comment vous avez travaillé le rapport entre les deux ? Marc Lenné.
Au plateau, tout simplement. Ça s'est fait dans un temps très court, on a eu 4 semaines. Il y a 7 chansons, la chanson inaugurale et la chanson finale appartiennent à l'album Hyper Nuit, et sinon Bertrand a composé 5 chansons. Enfin, il est parti aussi de chansons qu'il avait déjà peut-être ébauchées avant, mais ça s'est fait très vite et au plateau, et dans un échange assez émouvant comme ça, parce que c'était très simple entre nous. Après, il avait un travail fou, parce qu'il faisait aussi l'acteur. Enfin, il faisait l'acteur, il était acteur sur ce projet. Donc, ça s'est fait...
C'est la première fois qu'il montait sur scène ?
Je crois qu'il avait fait quelques tentatives, mais là, il a un rôle conséquent. C'est le personnage central de la pièce. Et j'avoue qu'il était impressionnant, quoi.
Camilla Chardonnay, je sais que vous avez travaillé avec Bertrand Belin, notamment sur une chanson, Les Tuileries, de Colette Mani. Qu'est-ce que ce chanteur peut représenter pour vous ? J'imagine que c'est un des identifiants quand même aussi de cette chanson française moderne dont vous parliez tout à l'heure.
Il est vraiment dans mes artistes préférés dans la vie, tous confondus. Je suis très très amoureuse de sa musique. Vraiment, il est fantastique, ce bonhomme. C'est quelqu'un de bouleversant. On a eu la chance de partir en Équateur il n'y a pas si longtemps. Et c'est le genre de type qui peut vous raconter une phrase et d'un coup, ça monte comme ça. Et voilà, il est comme ça dans la vie. Et du coup, c'est quelqu'un de très, très, très émouvant. Je ne le connais pas tant que ça, finalement, mais ça fait peut-être 2 ans qu'on se croise très souvent. Et voilà, j'ai beaucoup de tendresse et d'affection pour
lui. Pourquoi vous êtes partie en Équateur ?
Parce qu'on a un ami en commun qui se trouve être aussi notre manager, qui s'appelle Chet, d'accord. Qui est artiste et qui fait des showchettes, ça s'appelle, parce qu'il
des
adore des showchettes, parce qu'il adore les jeux de mots.
Ça, je vous garantis qu'il les adore avec un truc pareil.
Le principe étant que Chet chante des chansons et invite 3-4 artistes par soir à chanter des chansons avec lui ou entre, et du coup le projet s'est exporté en Équateur, donc on s'est retrouvés tous là-bas.
Vous connaissez tous là, Marc Lenné ?
Oui, absolument, je connais Chet.
Et les chaussettes aussi.
Et les chaussettes, j'ai pas eu la chance d'y assister, mais et surtout là-bas.
Vous-même, vous êtes musicien, vous chantez ?
Pas du tout. J'ai une oreille catastrophique, ma mère est sourde et elle me chantait faux toute mon enfance et vraiment, c'est une catastrophe.
Lucille Comeau.
Vous parliez d'un album de Bertrand Belin, qui est un album de 2010 qui s'appelle Hyper Nuit. Ouais. Dans la pièce, il est question d'un album parfait, d'un album à venir. Est-ce que, en quoi cet album-là peut être une référence d'un album parfait ?
Ça l'est pour moi, c'est très intime, c'est un rapport... J'ai découvert cet album et Bertrand, pour être honnête, Bertrand Belin par la même occasion, et il a hanté mes après-midi et mes nuits pendant longtemps, et c'est à cause ou grâce à cet album que j'ai eu le courage de contacter Bertrand pour lui proposer ce projet.
Alors la pièce raconte l'histoire d'un groupe, inspiré même de loin de Joy Division ou des Pink Floyd, et surtout d'un personnage, j'ai pu lire, Syd Barrett, qui était un des membres fondateurs des Pink Floyd et qui en a même été exclu. Qu'est-ce qu'il représente pour vous ?
C'est un peu plus compliqué que ça.
Rentrons dans les nuances.
C'est-à-dire que ce spectacle, effectivement, s'inspire comme ça de 1000 figures qui appartiennent au rock, mais au fond, ça parle d'un petit groupe de rock de province française. Mmh. Et simplement, le postulat, c'est de dire que n'importe quel petit groupe, et c'est ça la force du rock'n'roll, peut devenir un immense groupe. Les Beatles, c'était 4 prolos qui ont décidé de jouer ensemble et qui ont fait probablement un projet artistique essentiel. Donc c'est ça le postulat. En l'occurrence, Syd Barrett, en revanche, il a une histoire très belle. C'est qu'effectivement, après quelques mois, quelques années de défonce, il a été exclu du groupe de rock progressif des Pink Floyd. Et il y a une légende, c'est qu'il s'est enfermé dans son appartement londonien. Et, enfin, on suppose, on imagine, on espère, on souhaite qu'il a composé un chef-d'œuvre. Sur la question de la virtualisation, de devenir roi, c'est un peu ça. C'est-à-dire que le postulat aussi de la pièce, un peu comme ça, je parle de rock, mais c'est que le chef-d'œuvre ne peut être que virtuel, ne peut être qu'une supposition. Voilà. Et donc ce groupe de province a peut-être, je crois que la pièce ne répond pas à cette question, mais a peut-être composé un chef-d'œuvre.
Lucille.
Alors à propos du titre Splinorama, qui est baudelairien, en lien avec votre goût pour le romantisme que vous le revendiquez d'ailleurs, je vous cite, contre le cynisme ambiant, contre quel théâtre est-ce que vous travaillez ?
Je ne travaille pas contre un théâtre, mais en revanche, c'est vrai qu'il y a une énergie, un courant en ce moment, et dans lequel je me reconnais hein, pour une grande part, mais sur ce spectacle-là, j'avais envie de mettre les potards très bas, et il y a beaucoup comme ça d'hystérisation du plateau, d'ironie, de cynisme, et j'avais envie de repartir tout en douceur, pour le coup aidé en cela par Bertrand. Mais donc je ne vais pas nommer d'artistes, parce que c'est des artistes que je respecte, mais intimement aujourd'hui j'avais besoin d'aller ailleurs, en prenant le risque aussi d'un travail plus flottant, plus atmosphérique, et moins mordant. Voilà. Mais c'est risqué, parce qu'en plus, jusqu'à présent, je travaillais sur des archétypes. Et là, je travaille donc sur des clichés, à nouveau, les clichés du rock. Mais le rock n'est que cliché, n'est que posture. Mais cette fois-ci, j'ai décidé d'espérer qu'elle pourrait toucher, émouvoir, au lieu de faire rire. Mais c'est risqué.
Ça marche ?
J'espère.
Alors, la scène, c'est le local, c'est-à-dire le lieu où le groupe répétait dans sa jeunesse. Et là, c'est là que se retrouvent les personnages. Et vous avez choisi où là ? Est-ce que tous les mots vont arriver dans l'ordre à un moment donné ou à un autre ? Et vous avez choisi de marquer les époques différentes avec des lumières différentes. Quand est-ce que ce dispositif de lumière et donc de scénographie s'est imposé ?
Ça s'impose toujours. Je suis scénographe plasticien,
oui,
à l'origine.
Tout à fait.
Donc ça s'impose avant d'écrire la pièce. La forme, c'est-à-dire à la fois l'espace et en même temps la dramaturgie qui va en découler. Enfin, ça va peut-être changer. Je vais essayer de commencer par le texte pour les prochaines aventures. Mais là, en l'occurrence, l'idée, c'était aussi d'essayer. Je parle d'un groupe de rock, mais je parle aussi de la mémoire dans ce spectacle, mais de manière très discrète, très prosaïque. Hein, j'avance masqué, enfin, j'espère. Mais l'idée, c'était de faire du plateau un lieu, une chose mentale, quoi, qui alternerait des scènes au présent, au passé, dans une volonté comme ça de flou, de glissement. Voilà.
Vous dites que vous avez été scénographe et plasticien, vous le restez tout aujourd'hui quand même. À quel moment vous avez décidé de passer vous-même à la mise en scène ? Est-ce qu'il y a une scénographie qui a enclenché le processus ? Est-ce qu'il y a un metteur en scène pour qui vous travaillez, qui vous a autorisé, entre guillemets, à passer à la mise en scène, Marc Lenné ?
Non, j'ai été scénographe un peu par hasard, pour tout vous dire. Je ne me destinais pas du tout au théâtre.
Vous avez fait les arts déco ?
J'ai fait les arts déco et j'avoue que mes références à l'époque, c'était les grands anciens, c'était Huyghe, c'était des plasticiens vraiment.
Pierre Huyghe, oui.
Oui, pardon. Et enfin, d'autres d'ailleurs. À l'époque, il y avait Henri Salat qui était dans un peu plus âgé que moi, etc. Donc c'était plutôt mes modèles. Puis la vie, les rencontres amoureuses en l'occurrence, ont fait que je me suis retrouvé à faire du théâtre un peu par hasard, un peu avec aussi cette schizophrénie de beaucoup de gens de théâtre. Hein. Un goût, c'est torturé, quoi, notre rapport au théâtre, parce qu'on n'aime pas ça, et en même temps, quand ça arrive, c'est tellement merveilleux. Et voilà, et sur cette pièce, c'est d'ailleurs compliqué, parce que, pour la première fois, je tente de raconter vraiment une histoire. Je tente ce qu'on appelle en théâtre le quatrième mur, c'est-à-dire d'essayer de faire en sorte que mes personnages puissent incarner vraiment et c'est extrêmement dur. Mais quand ça opère, c'est, je crois, bouleversant, et c'est une sorte de défi au réel. Enfin, voilà, je ne sais pas si c'est... Je m'égare un peu là, pardon.
Non, pas du tout. Camilla Jordana, votre rapport au théâtre, ça commence quand pour vous ?
Petite, je pense que j'avais Je sais pas, je crois que je devais avoir 10 ou 11 ans la première fois que j'ai fait du théâtre. Je sais pas si ça répond à votre question.
Ah si, ça répond complètement à ma question. Et vous l'avez poursuivi.
Non,
pas du tout. Pas du tout. Vraiment. Vous avez travaillé ce théâtre jusqu'à aujourd'hui en prenant
non.
des...
Non, 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 vous avez... j'adorerais pouvoir dire ça, mais non. Non, j'ai arrêté, j'ai dû en faire 4-5 ans. Et puis après ça, je suis arrivée au lycée et puis j'ai arrêté parce que je faisais beaucoup trop de choses en dehors de l'école. Et je me suis raconté des histoires en me disant que de toute façon, le piano et le solfège, comme le théâtre et la danse, ça prenait trop de temps, donc ça servait à rien. D'autant que quand on grandit à la Londres, les morts, on vous explique pas trop comment devenir comédien, musicien ou danseur professionnel à l'école. Donc bon, en effet, c'était plus presque une perte de temps qu'autre chose, parce qu'au bout d'un certain temps, on vous demande une heure de piano par jour, alors que bon... Et voilà, et puis après la musique est devenue mon métier, et du coup je me suis remise à jouer, et j'adore ça.
Lucille.
Vous dites, vous Marc Lenné, que lorsque vous étiez jeune, vous étiez un mauvais spectateur de théâtre. C'est quoi un mauvais spectateur de théâtre ?
Je m'ennuyais beaucoup. J'avais pas du tout la capacité à... Mais ne serait-ce qu'un théâtre de texte auquel je m'exerce là aujourd'hui, j'avais aucune capacité à recevoir ça. Mais j'apprends, je progresse.
Alors, on a reçu ici un autre scénographe, Richard Peduzzi, qui lui a travaillé avec Patrice Chéreau. Et on avait repéré chez lui des motifs. Enfin, tout le monde a repéré chez lui des motifs, les damiers, les roues, les chaises. Je me demandais s'il y avait aussi des éléments qui signent vos scénographies ou vos mises en scène.
Non, justement, je continue d'être scénographe pour la rencontre avec un metteur en scène. Et c'est vraiment important, d'ailleurs, quand on fait des spectacles pour soi, où on écrit le texte, la mise en scène, on fait les costumes, etc., c'est hyper important de préserver cet échange, cette confrontation avec une altérité, quoi. Et en tant que scénographe, je fais des choses pour l'opéra ou pour le théâtre, je crois, très différentes, qui peuvent emprunter au réalisme, qui peuvent être beaucoup plus abstraites. Et c'est un vrai plaisir de ne pas... Enfin, je ne sais pas, il y a sans doute... Mais c'est pas à moi de les nommer, des choses qu'on... Des leitmotifs, des signes, des choses qu'on reconnaît. Mais je ne les conscientise pas.
Lucille ?
Alors, on vous a demandé aussi d'apporter un son, et pour vous, c'était ça.
Non, c'est absolument pas ça. On peut passer toute la journée à écouter Bertrand Belin, mais on peut écouter aussi autre chose. Qui serait ça ? When I think of you, Baton Rouge, I think of a mariachi band. I think of 16 and a crisp green football field. I think of the girl I never had. When I think of you, Baton Rouge, I think of a backseat in a car. The windows are foggy and so are we, as the police ask for our ID. So helpless, so helpless.
Alors, identification de ce son,
c'est Lou Reed dans un de ses derniers albums qui s'appelle Ecstasy. C'est une chanson qui s'appelle Baton Rouge. Et pour moi, c'est Lou Reed, c'est une figure évidemment légendaire, mais finalement, ses derniers albums sont souvent un peu laissés de côté comme ça. Et ça, c'est une chanson où je trouve sa voix un grain absolument magnifique. Et c'est une chanson d'une... Enfin, c'est une vie qui se raconte, quoi. Voilà.
Lou Reed, c'est la seule personne qui est évoquée vraiment dans le spectacle parmi les grands du rock. Pourquoi lui et seulement lui ?
C'est pour des raisons très intimes, en fait.
Qu'on peut connaître, qu'on ne peut pas connaître. Baton Rouge and the deep southern bells with their touch. I wonder where love ends and hate starts to blush. In the fields, in the swamps, in the rush. Peut-être une ultime question, Marc Lenné, à propos d'une web-série que vous avez signée, Enjoy the Silence.
Très bien.
Un genre de western minimaliste.
Absolument. C'était
C'est-à-dire
C'était pour la ferme du Buisson, à l'époque dirigée par José Manuel. On avait comme ça eu la proposition de réaliser une web-série. Et avec un ami très proche, Jean-François Auguste, on a décidé comme ça d'imaginer une fiction qui se passerait dans un désert minimaliste et une pièce blanche remplie de sable. Où un cow-boy français, viendrait comme ça faire une série de rencontres toutes plus improbables les unes que les autres. C'était inspiré de Lewis Carroll, c'était inspiré de David Lynch. Ça a eu un prix, cet objet improbable a eu une petite vie, comme ça, une petite renommée. Et c'est une belle aventure, mais comment vous connaissez ça?
C'est notre métier.
Mais on peut plus le voir, par exemple?
Non,
on
a essayé de regarder, on n'a rien trouvé sur Internet. Ouais.
Ah, c'est dommage, parce que c'était pas mal.
Oui, il y avait même un prix.
Le rendez-vous, la session.
La session, Benoît.
Oui, on termine avec un deuxième titre en direct de Camélia Jordana, en direct du studio 108. Et pour terminer, la chanson-titre de l'album, Dans la peau, écrite et composée par Camélia Jordana et Blair Marquichan. Vous êtes accompagné par Donia Beriri au synthé et Steve Arguelles à la batterie. Alors c'est à vous en direct sur France Culture.
T'es dans les yeux au petit jour, je fais des tours et des aveux. Je t'ai en tête quand mes idées, souvent muettes, chantent l'été. Avec des battements de cils, je joue des tours à tes humeurs. Jusqu'à ce que tu perdes le fil, à en oublier le nom des fleurs. Je t'ai dans la peau au petit matin, alors que les rêves passent, ton regard berce mes chagrins. Pendant que les heures se prélassent, je t'ai dans la peau au petit matin, alors que les rêves passent, ton regard berce mes chagrins. Pendant que les heures se prélassent. Je parle des crépuscules, des passants, des pavés. Je raconte la lune, je te raconte la lune. Je m'étends sur la brume ou sur tes baisers. Oui, moi je sais raconter tes baisers. Je décris des dizaines d'humeurs quotidiennes. Je te chante encore mes joies, mes peines. Je détaille toujours des histoires tout bas. Mais comme j'aime penser à toi. Avec des battements de cils, je joue des tours à tes humeurs. Jusqu'à ce que tu perdes le fil à en oublier le nom des fleurs. Je t'ai dans la peau au petit matin, alors que les rêves passent, ton regard perce mes chagrins. Pendant que les heures se prélassent, je t'ai dans la peau au petit matin, alors que les rêves passent, ton regard perce mes chagrins. Pendant que les heures se prélassent, je t'ai dans la peau au petit matin. Pendant que les heures se prélassent, je t'ai dans la peau.
Merci. Camélia Jordana dans la peau en direct depuis le studio 108 de la maison de Radio France. Extrait donc de ce dernier album paru chez Jive Epic, Sony Music. Et puis je rappelle que l'on pourra vous voir sur scène, une tournée qui débute le 5 décembre et vous passerez entre autres par Cavaillon le 6, par Nantes le 20, par Valence le 5 mars ou encore non loin de votre terre natale à Toulon le 17 avril 2015.
C'est vraiment le régionaliste fou hein, qui a parlé.
Eh oui, j'aime ça.
Je sautais au plafond avec un grand P. On pensait au pays avec un grand P.
En tout cas, c'est un moment important.
Avec un grand P.
Le roi est celui qui se donne tout entier et qui se donne au point qu'il se fond dans tout un peuple.
Avec un grand P.
Camélia Jordana, merci à vous. Dans la peau, apparu sous le label Jive Epic. Marc Lenné, Spinorama, c'est jusqu'au 4 octobre au Théâtre de la Bastille à Paris avant une tournée. Ça, c'était pour aujourd'hui. Demain. Demain, Rossini et Pinter avec la mezzo-soprane Karine Dehé et le metteur en scène Frédéric Bellier-Garcia. Des annonces, Hippolyte ?
C'était le rendez-vous de Laurent Goumard, une émission préparée par Lucille Comeau, Benoît Lagan, Adrien Nazelli et Hippolyte Babilote. Journal de la culture Zoé Sfez, à la technique Benoît Latil, Jacques Azubert, à la réalisation Thomas Beau. Vous pouvez réécouter, podcaster et commenter l'émission sur le site franceculture.fr et rejoindre la grande famille du rendez-vous sur les réseaux sociaux avec le hashtag RDV.
Merci Hippolyte, c'était très bien. Il est 19h53, vous écoutez France Culture, c'est bien. Et à 19h54, je vous laisse avec Denis Podalydès de la Comédie Française.
Cette émission vous a été présentée en partenariat avec Entrée Libre, ce soir à 20h15 sur France 5.